Amen, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Ah, on est déjà passé pour les offrandes. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est. Voilà. Ah, que c'est pas facile. J'aimerais partager avec vous quelques textes de la parole de Dieu. En fin de compte, tout est parti de ce texte que je vais lire en premier. Exode 20. Versets 18 et à 20. Tout est parti de ce texte-là. Exode 20, 18. Nous lisons ceci. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même. » Et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Amen. Quel texte étrange! Quelle situation étrange! Le peuple, on est dans l'Exode, est sorti d'Égypte. Non pas par sa volonté, même s'il criait à Dieu, il y en a marre d'être esclave, ça fait 430 ans que nous sommes prisonniers, esclaves d'un peuple là, mais on aimerait bien en sortir, et d'une manière tellement miraculeuse, on dirait que c'est de la folie. Imaginez, prenez quelques secondes pour vous représenter ce que représente ce peuple d'Israël, 1 million de personnes ou deux, qui sort d'Égypte parce que Dieu est intervenu. Il nous est dit que Pharaon a commencé par dire oui, et puis non, et puis son cœur s'est endurci, il ne voulait plus laisser partir ses esclaves. Mais malgré tout, il a été contraint de le laisser partir. Il a été pris de remords. Et lorsque le peuple est parti, il s'est dit, mais non, mais ça ne va pas. Donc il est allé le rechercher, ce peuple. Et là encore, Dieu s'est révélé en toute sa puissance et toute sa gloire, parce que les Égyptiens voyaient quelque chose d'inquiétant. De l'autre côté, le peuple était rassuré. Il y a eu ce vent qui a soufflé, chose miraculeuse, la mer s'est ouverte. Alors, je suis un peu cartésien, un peu scientifique. J'aime beaucoup écouter les émissions et lire les revues scientifiques qui essayent d'expliquer les miracles de la Bible. C'est extraordinaire. Mais moi, je crois ce que dit la Bible. Il est toujours facile de dire, voilà ce que dit la science, comment la Bible va s'adapter à la science. Il me semble que le plus grand scientifique au milieu de nous, c'est Jésus, hein. C'est lui le créateur de toutes choses. Et la science, lui, il n'en a que faire, c'est lui le créateur de la science et des propriétés. N'a-t-il pas marché sur l'eau? Allez, essayez de l'expliquer avec la science. Hein? Bon courage. Alors, c'est pas grave si des fois il y a dissonance entre la science, ce que les gens observent, et la Bible. Moi, ma foi, elle ne s'explique pas. Hein? Et le peuple a traversé la mer Rouge à sec. À sec. Même par les temps actuels, arroser vos plantes, dans la journée, c'est encore humide. Dans le fond du bac, il y a encore de l'humidité et compagnie. Là, dans la nuit, la mer a été séparée en deux, et ils ne sont jamais embourbés pour la traverser, contrairement aux Philistins, aux Égyptiens après. Quel miracle! Quel miracle! Et là, Dieu les conduit auprès d'une montagne qui s'appelle le mont Sinaï. Et Dieu donne ses quelques recommandations, ne pas s'approcher de la montagne et compagnie, par peur d'eux, etc. Et on est dans ce contexte. Et là, Dieu a fixé un rendez-vous avec son peuple. Mais comment on s'approche de Dieu ? Nous avons lu, à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Pourtant, ils ont vu ce Dieu si grand manifester toute sa puissance, son autorité pour le peuple qu'il aimait et qu'il aime. Donc Dieu a manifesté son amour, a prouvé son amour pour son peuple en le préservant des Égyptiens. Et pourtant, il nous a dit que le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle, nous joue le rôle d'intermédiaire entre ce Dieu et nous. Là, c'est compliqué. Parle à Dieu et tu nous dis ce qu'il te dit. Que Dieu ne nous parle point. Waouh. Un Dieu plein d'amour, qu'il a prouvé à chacun de ses enfants, ne nous parle pas. Non, non, ne nous parle pas. Ne nous parle pas. Tu fais trop peur. Parle à Moïse. Lui, ça va, lui, c'est bon. Il a déjà eu le buisson ardent et compagnie. Parle à Moïse, mais pas à nous. Mais Moïse, il nous dira ce que tu lui as dit. Est-ce que vous croyez que c'était ce que Dieu voulait? Moi, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Un père, ou des parents, hein, on va généraliser, des parents ne veulent pas d'intermédiaire avec leurs enfants. Tiens, je te fais un câlin et tu le fais à mon fils. Tu le fais à ma fille. Dis à mon fils, à ma fille que je l'aime. Non. Non. On va s'exprimer directement auprès de son enfant. Et le cœur de Dieu, qui est un Dieu d'amour, ne veut pas utiliser un intermédiaire pour dire combien il nous aime. Le peuple tremblait. Pourtant, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte. Alors ce matin, ce qui va nous intéresser, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Craignez-vous Dieu? Craignons-nous Dieu? Et si oui, mais de quoi parlons-nous? Proverbe 1,7 nous dit, c'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. C'est la version Sommer. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Je reprends ce verset, c'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Donc Proverbe 1,7, pour ceux qui prennent des notes, que commence la connaissance, mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Tout commence par la crainte de l'Éternel. Tout commence par la crainte. Qu'est-ce que la crainte? La crainte de l'Éternel, la crainte de quelque chose, la crainte de quelqu'un. J'aime bien un certain dictionnaire qui nous dit « inquiétude éprouvée à l'égard de quelqu'un ». De quelque chose, d'un fait, d'une action qui constitue une source de danger. Voilà ce que nous dit un dictionnaire. Et finalement, c'est comme ça qu'était le peuple de Dieu, non? Quand on parle de crainte, ils étaient dans l'inquiétude, dans la peur, dans l'appréhension, dans l'angoisse. Non, 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 pas ce Dieu-là, pas. Enfin, pas comme ça. Oui, on veut de ce Dieu, mais on ne veut pas être en contact avec lui. Pour nous, croyants, c'est un peu différent. En fait, quand dans la notion crainte, on peut y voir aussi une notion de révérence. De révérence. De respect. Hébreux 12 nous dit, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant, avec respect et piété. On se rend compte qu'il y a deux aspects. Il y a le peuple qui est effrayé, et puis dans Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, avec piété et respect. Est-ce qu'on parle du même Dieu? Vous Ce respect, cette piété correspond à ce que doit être notre crainte de Dieu. Nous avons vu que la crainte de l'Éternel, c'est la connaissance, c'est par là que commence la connaissance, la sagesse. Il est créateur de toutes choses. Il est au centre de tout. Pourtant, il est tellement facile de travailler avec la crainte-peur. D'ailleurs, la plupart des religions ont plus travaillé avec la crainte, la peur, que l'amour. Ah, tu as péché. Ah, tu as fait ça. Ah, tu as fait ceci. Alors maintenant, tu vas faire trois machins et t'auto-flageller, etc. Parce que Dieu est saint. Ça, c'est vrai. Mais on a oublié de dire Dieu est amour. Et le jugement n'est pas pour ses enfants. Le Christ a payé le prix. C'est lui qui a payé le prix. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce qui doit nous amener non pas à être dans la crainte peur, mais la crainte respect. Mais il est tellement plus facile de faire monter la crainte peur angoisse et manipuler les foules de cette manière-là. Dans les siècles passés, on a vu les mouvements religieux qui s'en servent, et encore aujourd'hui, différents mouvements religieux se servent de la peur qu'on peut faire naître. T'es sûr d'aller au paradis ? Tu le vois le tronc au fond là-bas ? C'est pas pour nous. Hein. Mais faut être généreux. Faut être généreux. Et puis, faut vivre dans la pauvreté. Et puis, si tu es malade, tu as dû faire quelque chose. Je vois des sourires. On a tous entendu ces choses-là d'une manière ou d'une autre. Mais ça nous renvoie à quelle image de Dieu ? Un père fouettard. On est d'accord ? Et est-ce qu'on a envie d'aller voir un père fouettard ? Qu'est-ce que tu as encore fait, toi ? Allez, une par là. T'as fait quoi ? Une autre. Ça donne pas envie d'aller le voir. Moi, le premier, j'irai pas. Hein. On se rend compte que là, la crainte, le mot crainte, a deux sens complètement opposés. La crainte, la peur, et la crainte liée à l'amour. Parce que le respect, on ne doit le respect à des personnes qui sont respectables. Notre Dieu est-il respectable ? Moi, je crois que oui. Hein. Notre Dieu est respectable. Et dès l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, chapitre 6, verset 5 et verset 13, il est dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». Il n'est pas marqué « Tu seras effrayé ». Tu auras peur de l'Éternel ton Dieu ? Non, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Comment peut-on aimer quelqu'un qui nous fait peur ? Dites-moi. Comment peut-on l'aimer ? Même des animaux, des chiens qui ont été battus, ils ont peur. Alors, quand on s'approche d'eux, ils se font tout petits parce qu'ils ont peur. Mais est-ce qu'ils aiment ? Non, ils ont peur. Le verset 13 nous dit « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. » Alors comment, en quelques versets, il peut dire « Tu aimes » et après « Tu craindras ». Si la crainte, c'est la peur, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, cette crainte-là, c'est pas cette crainte qui nous fait nous éloigner de Dieu. Mais c'est cette crainte respectueuse. Tu respecteras l'Éternel, ton Dieu. Tu exerceras de la piété, tu le vénéreras, tu le glorifieras. En fin de compte, tu te soumettras. Ah, on n'aime pas trop ce mot, hein, se soumettre à. Ouais, mais on se soumet à quelqu'un qu'on respecte. On se soumet à quelqu'un que l'on aime. Sinon, oui, on peut parler de la soumission à l'esclavage, mais non, c'est de l'esclavage. C'est pas de la soumission. Là, c'est, on exerce une autorité sur quelqu'un et cette personne nous est complètement soumise dans le sens où elle est dans les chaînes et compagnie. Je ne parle pas de ça encore. Hein. Nous sommes libres de choisir qui on veut. À qui on veut être soumis. Enfin, non, je me corrige. On se soumet librement par choix à notre Dieu. Par contre, à l'ennemi de nos âmes, non, là, ce n'est pas une soumission par choix. Lui, il sait nous écraser, nous soumettre, et là, ce n'est pas par choix, ce n'est pas de la liberté. Je ferme cette parenthèse. Donc, la crainte de Dieu n'a rien à voir avec la peur de Dieu. Dieu est amour. Dans Jean 1, chapitre 4, je crois, Dieu est amour est répété au moins deux fois. Dieu est amour. Et donc, l'amour ne doit pas nous effrayer. L'amour ne doit pas nous effrayer. Alors, craindre Dieu, avoir peur de lui. J'aimerais citer deux exemples. Quelle est la première référence de la peur dans la Bible? Où est-ce qu'on la trouve? Pardon? Adam et Ève. La première mention de la peur, c'est Adam et Ève. Ah, Genèse 3. Ah, qu'il est beau ce fruit. Dieu a-t-il réellement dit? Allez, hop, un petit doute. Des fois, il ne nous suffit pas de faire grand-chose pour nous faire dévier. Dieu a-t-il réellement dit? Combien tes pensées sont attaquées? Quelles sont les bonnes pensées? Quelles sont celles qui viennent de Dieu et celles qui viennent d'ailleurs? De nous-mêmes, hein, des fois, ça suffit. Savoir reconnaître la voix de Dieu, ça nous a été rappelé ce matin. Savoir la reconnaître. Et donc là, que ce fruit est beau, magnifique. Oh, je me laisse tenter. Oh, je croque dedans. Tiens, il est bon, croque. Quelle conséquence? Dieu se promène dans le jardin comme tous les jours et il veut voir sa créature, ses amis, ceux qu'il aime, ceux avec qui il partage plein de choses. Amis intimes. Il aime Adam et Ève. Il a montré combien il les aimait. Et il les a rendus libres. Ils ont fait un choix. Mais ce choix est la désobéissance à la parole de Dieu. Première conséquence de cette désobéissance, quand vient l'heure du rendez-vous quotidien avec Dieu, on se cache. On a peur. La crainte, la peur de Dieu est directement la conséquence de la désobéissance. D'un cœur partagé, cette désobéissance a été comme une cassure, une rupture, une séparation dans la relation entre Dieu et l'homme. C'est incroyable. La première conséquence du péché, ça a été la peur. Peur de Dieu. Pourtant, il n'y avait jusqu'à présent aucune raison d'avoir peur de Dieu. S'était-il montré autoritaire? Non. J'aurais aimé être dans ce jardin d'Éden. Qu'est-ce que j'aurais aimé? Voir le loup et l'agneau manger ensemble. Pas se manger l'un l'autre. Hein. Manger ensemble, donc le loup était herbivore. Hein. Forcément. Entendre ces chants d'oiseaux, ça devait respirer la paix dans le jardin, la joie. Et malgré tout, maintenant, ça respire la peur du Créateur. Quelle tristesse. Deuxième exemple, j'en ai déjà parlé en introduction, le peuple des Hébreux qui avait peur de Dieu. Et que voit-on? En fin de compte, pourquoi ils avaient peur de l'Éternel? Parce que déjà leur cœur n'était pas droit. À quoi le voit-on ? Eh bien, Moïse joue ce rôle d'intermédiaire. Il monte sur la montagne. Et Moïse, c'est bizarre, mais il n'a pas peur de monter sur la montagne. Il est respectueux de Dieu, ça c'est sûr, il est dans cette crainte. Mais la crainte de Moïse et la crainte du peuple n'est pas la même. Il monte avec respect sur la montagne. Il nous est dit que le temps passe, et ce Moïse, qu'est-il devenu ? Aaron, allez, fais-nous un dieu. Et on connaît tous l'épisode du veau d'or. Le cœur du peuple n'était déjà pas entier pour Dieu. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas se tenir dans la présence de Dieu. C'est pour ça que le peuple avait peur de ce Dieu, parce que leur cœur n'était déjà pas entier pour lui. D'où la peur. Si des fois notre cœur est partagé, est-il facile pour nous d'entrer dans la présence de Dieu ? On a des choses à régler des fois avant de se présenter devant Dieu. Et là, le peuple était partagé. D'où la peur, l'angoisse, la frayeur de ce Dieu. Donc, avoir peur de lui ou pas. Deux autres exemples. Noé. Vous vous souvenez de Noé ? Cet homme qui était très seul dans ce que Dieu lui a demandé de faire. Des fois, dans ce que Dieu nous demande de faire, on peut se sentir très seul. Très, très seul. Excessivement seul. Pire que ça, on peut faire l'objet de la risée de tout le monde. Et en quelques mois, Noé a bâti l'arche, quelques mois. Oh, quelques dizaines d'années, ouais, ça a été long. Hein. Il y a cette notion de persévérance dans le travail de Noé. Il a entendu la voix de Dieu. Tiens, il savait que c'était Dieu. Hein. Parce que pour s'engager dans un tel travail, il faut être certain que ce soit Dieu. Hein. Parce que là, on frise la folie quand même. Mais il était certain que c'était Dieu qui lui avait demandé de construire un bateau. Mais Noé, un bateau, mais pour faire quoi ? Il n'y a pas de mer, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. À la limite, si tu veux faire un bateau, mets-toi au bord de la mer quand même, au bord d'une rivière, au moins il sera utile à quelque chose. Oh, les moqueries qu'il a dû entendre. Et puis vous savez que quand on a un os à ronger, on y revient souvent. Et donc les gens devaient se moquer sans cesse de lui et de sa famille. Mais laissez-eux se noyer tranquille là, construire son truc. Tu ne vas pas suivre ton mari, tu ne vas pas suivre ton père, c'est bon, ça va 5 minutes quoi. Non, ça fait quelques années que ça dure l'affaire. Hébreux 11:7 nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la grâce qui s'obtient par la foi. Vous avez vu ? C'est par la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et il savait d'où venait cette parole. Donc, inébranlable la foi de Noé. Il sait que c'est Dieu qui a parlé. Mais pourquoi elle est inébranlable ? Parce qu'il connaît Dieu. Saisi d'une crainte respectueuse. Ah, que j'aime ce verset. Mais combien il me responsabilise aussi par rapport à mon positionnement, hein, dans ce que Dieu me demande. Crainte respectueuse. Et c'est pour ça que Noé a été trouvé persévérant dans l'accomplissement de sa mission. Est-ce que je suis persévérant dans la mission que Dieu me demande ? Je me parle à moi-même déjà. J'ai beaucoup à faire à ce niveau-là. C'est tellement plus facile de baisser les bras, de s'acheter une pseudo-tranquillité. Je dis bien pseudo parce qu'au fond, nous, on le sait. Hein. Souvenez-vous de Jonas. Il s'est acheté une pseudo-tranquillité. Va à Ninive, c'est par là, bien sûr, Seigneur, et je m'en vais de l'autre côté. Je prends la boussole, je me trompe entre le nord et le sud et je pars dans l'autre sens. Et puis, merci Seigneur, c'est génial! Je trouve le bateau, les gars ils sont sympas, ils m'acceptent à leur bord. finalement je me suis trompé, c'est la voix de Dieu, je m'en aille par là. Ouais, mon œil. Tu sais très bien à quoi tu joues, Jonas, tu le sais. Tu le sais. Et arrive un moment où la tempête se lève. Et il s'est acheté une pseudo-tranquillité parce que pendant que les autres bataillaient pour essayer de sauver le bateau, les cargaisons et compagnie, lui, il dormait, il nous a dit. Jusqu'au moment où il n'y avait plus rien à jeter. Jetez-moi par-dessus bord, c'est à cause de moi tout ça. On peut s'acheter une pseudo-tranquillité comme ça. Et on croit que tout va bien. Ça ne va pas marcher longtemps. Donc, d'en craindre Dieu ou pas, Abraham, deuxième exemple. Genèse 22:12 nous dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Voilà une autre crainte de Dieu. Enfin, un autre texte qui mentionne la crainte de Dieu. Vous vous souvenez de cet épisode où Abraham a tellement lutté pour avoir un enfant qu'il a fait des bêtises d'ailleurs. Et maintenant, l'enfant de la promesse est là. Il est là. Il grandit et compagnie, c'est extraordinaire. Et puis, il n'est pas jeune, Abraham. Hein. Mais bon, le fils est là. Il fait sa joie, c'est le fils de la promesse. Oh là là, extraordinaire. Donne-moi ton fils, Abraham. Quoi ? Donne-moi ton fils. Comment ça de te donner mon fils ? Je ne suis pas certain qu'il ait négocié avec Dieu. Lui aussi connaissait la voix de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham a pris le chemin, a pris l'âne, a pris le bois, a pris le feu, a pris son fils, a pris ses serviteurs pour aller offrir un sacrifice à la gloire de Dieu, une offrande. Et à un moment donné, il a dit à ses serviteurs, « Restez là, je m'en vais avec mon fils, l'âne, le bois, et nous allons revenir. » Reprenez le texte. Pour lui, c'était clair que Dieu allait faire quelque chose. Parce qu'il sait que c'est le fils de la promesse. Il sait que Dieu ne se renie pas. Il sait que ce que Dieu demande, il va l'accomplir. Ce que Dieu dit, il l'accomplit, pardon. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est donc avec foi, avec assurance qu'Abraham a pris le chemin. Père, où est le sacrifice? Où est l'agneau? Pour le sacrifice. Abraham dit, l'Éternel pourvoira. Waouh! On met le bois, il attache son fils sur l'autel. Le couteau est élevé et l'ange l'arrête. N'avance pas la main sur l'enfant. Abraham a été jusqu'au bout, juste avant qu'il ne soit trop tard, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Il avait cette respectueuse crainte de Dieu, Abraham. Quels exemples pour nous. Moi, ça me touche quand j'ai travaillé ces textes-là. Ça m'a remué. Parce que je crois que je suis très loin de ça. On s'habitue à tellement de choses. On s'habitue à tellement de choses. C'est ça l'endormissement. Quel est notre positionnement? Alors peut-être qu'on n'a pas cette crainte-peur de Dieu, mais on a plus cette crainte respectueuse de Dieu aussi. Il y a un bon baromètre pour savoir où on en est. J'ai une révélation. Et je sais que dans une heure, l'église est enlevée. C'est pas vrai, hein? C'est pas vrai, hein? Mais si dans une heure, l'église est enlevée, qu'allez-vous faire durant cette heure? à genoux, Seigneur, j'ai ça, pardon. Et là, on est dans la crainte-peur. Parce qu'on sent que notre vie n'est pas tout à fait en règle, tout simplement parce qu'on s'est endormi sur notre position, on n'est plus vigilant. Et là, la crainte nous gagne. La crainte, la peur. Pourvu que je sois pris, pourvu que je sois pris. Mais si tu dis la question, pourvu que je sois pris, c'est qu'il y a quelque chose là qui n'est pas réglé. Ou est-ce que pendant cette heure-là, tu es en règle et tu vas voir tous ceux qui ne sont pas sauvés. Et dans une heure, il va se passer des choses. Dans une heure, il va se passer des choses. Règle ta vie, règle ta vie, règle ta vie. Quelle est ta position? Où te situes? Où est-ce que tu te situes dans ces deux situations? Quel est ton cœur? Quel est mon cœur? Je dis tu, mais c'est nous. Hein. Quel est notre cœur? C'est le bon baromètre, je crois. Parce que avec ce baromètre-là, on saura ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est étrange, hein, mais si on se projette vraiment dans une heure, Jésus revient chercher l'Église, c'est comme étrange, mais il y a plein de choses qui vont devenir beaucoup moins prioritaires. Mais beaucoup moins prioritaires. Par contre, il y en a d'autres, elles vont devenir très urgentes. Très, très, très urgentes. Merci Seigneur pour ta patience. Parce que cette patience me donne encore l'occasion de pouvoir régler des choses dans ma vie. Et si j'ai des choses à régler dans ma vie, patiente encore un peu, que je puisse les régler, parce que je ne vais pas faire partie du deuxième voyage. Le premier. Le deuxième va être terrible. Entre le premier et le deuxième, ça va être terrible. Terrible. Il ne faut pas penser au deuxième. Il n'y a pas de rattrapage possible. Il faut passer du premier coup, là. Amen. Alors, crainte de Dieu. J'ai réfléchi aux conséquences dans nos vies de la crainte respectueuse de Dieu. Parce que la crainte peur, elle ne m'intéresse pas. Enfin, s'il y a la crainte peur, c'est que j'ai des choses à régler, et là, on sait ce qu'il y a à faire, c'est se mettre au pied de la croix, là, et régler sa vie avec le Seigneur. Il est urgent de le faire. Il est urgent de le faire. Et là, il ne faut pas faire comme Jonas, s'endormir, s'acheter une pseudo-tranquillité, il est temps d'être vrai, d'être transparent, d'être « Seigneur, me voici. Peut-être que tu vas faire monter à la surface des choses qui vont me déplaire, mais il vaut mieux qu'elles montent maintenant. Que ma vie soit claire, transparente. Plus de jardins secrets. Des fois, il y a des jardins secrets qui sont tellement abondants qu'avant, c'était une petite parcelle que c'est devenu... un énorme champ dans notre cœur, un jardin secret. Avec le Seigneur, il n'y a pas de jardin secret. Il faut être vrai. La conséquence de la bonne crainte de Dieu, c'est que cette crainte respectueuse nous amène à la confiance. Si j'ai peur de Dieu, je ne peux pas lui faire confiance. Comment avoir confiance en quelqu'un qui me fait peur? Pas possible, hein? On fera des choses par crainte, par peur, parce qu'on s'attend à recevoir une correction. Mais non, Dieu ne veut pas nous corriger, il veut nous accompagner. Il veut nous faire progresser. Donc, le respect de Dieu, la crainte de Dieu nous amène à avoir confiance. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se détourne pas. Psaume 40, verset 4, j'ai fait une erreur, je crois. Tu peux me l'afficher, s'il te plaît? J'ai fait une erreur de... Voilà. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Donc si tu as confiance en l'Éternel, tout va bien. Tout va bien. Allez, sors de la barque et marche sur l'eau. Par contre, la crainte respectueuse ne nous empêche pas d'obéir. En fin de compte, On a une obligation à l'obéissance. Mais quand on aime quelqu'un et qu'on se sent aimé de cette personne, naturellement, on va lui faire des choses, on va faire des choses qui vont être agréables. 1 Samuel 12, 14 nous dit « Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. » Si vous craignez l'Éternel, cette crainte respectueuse, si vous le servez, regardez bien ce qui est en premier, hein, si vous craignez l'Éternel, ensuite, si vous le servez, ça ne sert à rien de servir l'Éternel si on ne le craint pas. Hein. Là, ça, on tombe dans de l'activisme. On ne sert pas avec son cœur. Alors c'est bien de faire des choses. On fait tous plein de choses. Mais avant tout, craindre l'Éternel. On a vu en introduction combien la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de toute chose. Commencement de la connaissance de notre Dieu. Si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole, waouh. Il y a du boulot déjà, rien qu'avec ce verset. Hein. Enfin pour moi, il y a du travail là. Craindre l'Éternel, le servir, obéir à sa voix, point rebelle, vous attacherez à l'Éternel. Ah. Tu veux être attaché au Seigneur ? Tu veux être attaché au Seigneur, c'est-à-dire vraiment attaché, quoi, hein ? Hanté, greffé sur le divers cep. Craindre, servir, obéir, point rebelle. Quatre points. Tout un menu, hein, tout un programme. Hein. Et là, si on prend chacun des quatre points, en ce qui me concerne, il y a à redire. Donc on l'a vu, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu veux être sage ? Tu veux être sage ? Crains l'Éternel. Tu veux être sage ? Crains l'Éternel. Approche-toi de lui. La crainte de l'Éternel nous amène aussi à avoir une relation toute particulière avec le péché. Celle du dégoût. Vous avez déjà, je ne sais pas, oublié une poubelle en plein été, vous êtes parti en vacances, et vous oubliez la poubelle. Et puis en plus, bon, c'est l'été, donc il fait un petit peu chaud. Et dans la poubelle, il se passe des choses, hein, pendant qu'on n'est pas là. Hein. Et puis on rentre à la maison, tiens, c'est bizarre, il y a une drôle d'odeur. Là. On ne sait pas trop d'où ça vient, hein. On va aux toilettes, non, c'est tiré, compagnie. On va dans la cuisine. Et puis là, oh pétard, on oublie un truc dehors. Non, non, c'était pas dehors, c'était dans la poubelle. Et puis on ouvre la poubelle. Et puis, ça peut aller jusque-là. Un dégoût de tout ce qu'il y a là. Mais voilà ce que doit nous produire le péché. Et lorsque nous sommes en respect avec le Seigneur, naturellement, il y a un dégoût pour le péché. Je me suis pas trompé dans ma phrase. Naturellement, il y a un dégoût pour le péché. C'est une conséquence de la relation que nous avons avec Dieu. On sait tous là où on pêche. Et on est en combat, en lutte avec ce péché. Et on s'en sort pas. Parce qu'on prend les choses du mauvais côté. La crainte de l'Éternel va nous amener le dégoût. Et non pas l'inverse. J'aime le dire, mais c'est un exemple que j'avais trouvé une fois en cellule de prière dans une autre église. C'était le soir, j'avais éteint la lumière. Et j'ai demandé aux personnes qui étaient là, « Allez, chassez la nuit, chassez les ténèbres. » Et puis il y a quelqu'un qui s'est levé, il a été appuyé sur le bouton. Il allumait la lumière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour chasser la nuit, les ténèbres, faut allumer la lumière. Faut allumer la lumière. Bon, alors j'ai dit, on refait notre expérience maintenant. Sans appuyer sur le bouton, on fait comment ? Ben, c'est pas possible. Alors pourquoi avec le péché, on fait d'une manière différente ? On va se bagarrer, chasser les ténèbres de notre vie, chasser les péchés de notre vie, pour pouvoir y mettre le Seigneur. Sois rempli du Seigneur, approche-toi de Dieu et tu verras si les péchés, le problème du péché ne va pas être réglé. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Pourquoi lutter contre un péché? Bon, si on peut, c'est mieux quand même. Hein. Moi, je préfère mettre mon énergie à m'approcher du Seigneur. Et en m'approchant du Seigneur, le Seigneur me donne sa force, sa puissance, son autorité pour vaincre le péché. Tout seul, le péché, je ne peux pas le vaincre. L'ennemi est plus fort que moi, si je suis tout seul. Mais si j'ai un grand Dieu, si je suis proche de mon Dieu, et plus je suis proche de mon Dieu, et plus je suis puissant contre le péché. Et pas l'inverse. Combien d'énergie perdue? Parce qu'on se trompe de combat. Et l'ennemi n'a de cesse de vouloir nous faire tromper de combat. Si il s'amuse avec nous dans de mauvais combats, on n'est plus efficace. On n'est plus efficace. Aaron et Hur étaient à côté de Moïse. Pourtant, Aaron et Hur, s'ils pouvaient descendre combattre, ça faisait deux épées en plus. Pour eux, le combat, c'était de prier avec Moïse. Il ne faut pas se tromper de combat. Et si le diable peut nous amuser, je regarde l'heure, il faut que je termine. S'il peut nous amuser dans nos mauvais combats, c'est lui qui gagne. Et nous, on a l'impression de mener un combat, d'être efficace, mais quelle efficacité! Pas la bonne, hein. Et maintenant, j'aimerais que nous puissions lire Actes 2, 41 à 43, s'il te plaît. Actes 2, 41 à 43. Oh, c'est un texte qu'on connaît tous, hein. C'est après la Pentecôte. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Seigneur, que ça arrive là, 3000 et même plus. Et même plus. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient. Dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du Père. Ils persévéraient dans les prières. Et là, ça parle de quoi tout ça là? La vie de l'Église, hein? La vie de l'Église, pas la vie de l'Église à la maison. J'ai rien dit. Si, j'ai dit. Pas la vie de l'Église à la maison, pas la vie de l'Église sur Internet. Parce que c'est à la maison. Hein. Merci Seigneur pour ces médias qui sont là. Et franchement, pendant le Covid, ça nous a bien aidés. Hein. Et puis même des fois encore, hein, quand on a besoin, on trouve des choses très intéressantes sur Internet. Tout n'est pas intéressant. Voire même, il y a beaucoup de choses dangereuses. Beaucoup de choses dangereuses. Il faut être vigilant pour tout ce qu'on va trouver et qu'on est seul à lire ou à entendre. En préparant une prédication, j'étais tombé sur un site qui était intéressant, ça fait des années. Ça fait des années. Mais il y avait quelque chose qui me gênait dans ce que je lisais. Et j'ai creusé pour voir un peu qui c'était. Ah là, ça, c'était bien évangélique, enfin ça avait toute la couleur, toute l'odeur et compagnie. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Eh bien, c'était un site très, très mal orienté, je dirais. Je peux pas trop le dire. Aussi, je vais le dire, tant pis. C'était une église homosexuelle. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, c'est bon, je comprends pourquoi maintenant. Tout n'est pas bon. Mais il a fallu que je cherche pour comprendre. Il a fallu que je cherche pour comprendre. Attention à ce que vous lisez à droite, à gauche, même dans certains livres, de certaines éditions et compagnie. Tout n'est pas bon. Il n'y a qu'une seule chose qui est réellement bonne, c'est la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se nourrir d'autre chose, mais ayons toujours cette référence à la parole de Dieu. Alors, ils persévéraient, donc ça, on va continuer la lecture, c'est la vie de l'Église. Ils persévéraient là-dedans, hein, la communion fraternelle, la parole de Dieu, les prières, la Sainte Cène. Et ensuite, la crainte s'emparait de chacun. La crainte. Il persévérait et la crainte s'emparait. Ça veut dire quoi? À force de persévérance, il y a comme cette relation nouvelle, peut-être plus profonde avec le Seigneur. En fin de compte, ils ne connaissaient pas Dieu comme ils le connaissent maintenant. Souvenez-vous de tout ce qui s'est passé à la crucifixion de Jésus. Tous les disciples étaient autour de Jésus pour le protéger. Hein. Courage fuyons, oui. C'était courage fuyons. Hein. Oui, si, quand ils sont venus le chercher à Gethsémané, oui, là, ça allait. Mais quand il fallait arrêter Jésus, porter la croix et compagnie, il y avait combien de monde, là?
Pourtant, ça faisait 3 ans qu'ils vivaient avec lui. Hein. Ils en ont vu des choses. Ils en ont expérimenté des choses. J'essaie de me représenter toujours la multiplication des pains et des poissons. Mais il se passait quoi dans les paniers, là? Poum, un poisson, poum, un pain. Je ne sais pas comment ça se passait. Mais c'est extraordinaire à vivre. 5 pains de poisson, et d'un seul coup, il reste 12 corbeilles en trop, là. On ne sait pas quoi en faire. Mais qu'est-ce qui se passait physiquement? Moi, j'aimerais le comprendre. Je suis curieux. À chaque fois, tu en as un, il y en a 2 qui apparaissent. Je ne sais pas comment ça s'est passé, j'en sais rien. Mais c'est intéressant de savoir, non? Ouais. Bah, tant pis, c'est pas... je ne sais pas l'expliquer. On ne sait pas. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi je disais tout ça? Je me suis perdu. Mais la crainte, c'était pas ça, c'est pas grave, on va revenir là. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Ah oui, ça y est, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc ces disciples qui avaient vécu tellement de choses, là, il s'est passé quelque chose quand même, 3000 âmes, une prédication. Il n'y a plus de fuite, il n'y a plus rien. 3000 âmes. Il s'est passé quelque chose. Alors il y a eu cette période dans la chambre haute. Et là aussi, pendant ces quelques jours, là, ils ont peut-être réglé des trucs entre eux. Ah oui, mais toi tu as dit ça, c'est normal que... Eh oui, mais toi tu as fait ça. Ils ont appris à vivre ensemble, d'une manière différente, sans Jésus. Ils sont restés quelques jours là-haut quand même. Hein, à attendre la promesse. Et je pense qu'ils ne devaient pas se regarder en chien de faïence. Toi, je ne te cause plus. Ça a peut-être commencé comme ça. Hein. Ouais, tu m'as critiqué lorsque je t'ai dit que le tombeau était vide, tu m'as jamais cru et compagnie, il a fallu que Jésus paraisse. Tu vois, tu ne me crois jamais quand je te parle. Des chamailleries comme ça, entre nous, hein, même si ce n'est pas le sujet, mais ça arrive souvent, hein, des chamailleries comme ça. Et des fois, ça termine en conflit. Hein. Ils ont sûrement réglé des choses dans la chambre haute. Parce que pour que le Saint-Esprit arrive, il fallait que les choses soient réglées. Et la conséquence de tout ça, 3000 âmes. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Et la suite du verset est très importante. Et, c'est le « et » qui appelle une conséquence à tout ça. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et là, je me pose une question. On le connaît ce texte, hein, qu'il découvre, qu'il ne l'a jamais lu. Ben là, ça a été une révélation un petit peu pour moi là, cette semaine quand je le lisais, quand je méditais. Ce petit « et » là, hein, 2 petites lettres là. La crainte s'emparer et cause-conséquence. On n'a pas envie de voir des prodiges et des miracles? Oh oui! Oh oui! J'ai envie de voir des prodiges et des miracles. Mais il y a un prix à payer pour le voir. La crainte. Pas moi qui le dis, hein. C'est écrit là, hein. Si c'est moi qui le disais, vous seriez en droit de douter. Mais là, c'est marqué. La crainte s'emparait. Et il se faisait. J'ai envie de voir le Seigneur agir. Dans ma vie, dans l'église, dans ma ville, dans mon travail, dans ma famille. Il y a tellement d'endroits où je veux voir le Seigneur agir. Et on sait bien que ce ne sont pas les miracles qui sauvent. Jésus a été celui qui a produit le plus de miracles sur terre. Et il s'est retrouvé tout seul. Mais même lui, il a été empêché d'agir à Jérusalem. Oui, il pleurait sur Jérusalem. Jérusalem a rejeté, l'a rejeté. Là où il était né, il n'a pas pu non plus accomplir beaucoup de miracles à cause de la dureté des cœurs. Des fois, notre cœur empêche Dieu d'agir. Des fois, trop souvent, voire tout le temps. C'est à cause de la dureté de notre cœur que Dieu ne peut pas intervenir comme il aimerait. Et la dureté de notre cœur nous amène justement à être comme ces Hébreux. Va voir le Seigneur et puis dis-moi ce qu'il t'a dit. Va voir le Seigneur et dis-moi, oh, toi, je sais que le Seigneur t'entend. Il t'a rien dit pour moi. Vous rigolez, mais combien de fois c'est vrai? Et puis, on sait qu'il y a un frère, une sœur qui très proche de Dieu, rempli de la présence de Dieu. Bonjour frère, ça va? Au revoir. Des fois qu'il voit qu'il a scanner, je me souviendrai toujours. Ça. C'était David Wilkerson qui avait comme interprète Claude Hood. Et c'était, je crois, la dernière fois où David Wilkerson est venu à Paris. Et là, Claude Hood, il disait, à chaque fois que je vais voir David Wilkerson à New York, je regarde, je fais l'analyse de ma vie, parce que j'aime pas quand il me regarde avec ses yeux laser. J'ai l'impression qu'il passe un scanner et qu'il passe toute ma vie comme ça. Mais il y a des hommes, des femmes qui nous amènent à nous interroger sur notre vie. Parce qu'ils sont proches de Dieu. Et on a peur de se trouver sale. Mais Dieu sait plus que ces hommes. Craindre Dieu, pour finir, c'est pas nourrir, entretenir une peur envers lui. C'est surtout pas ça. Si on a peur, c'est qu'on a quelque chose à régler. Le problème ne vient pas de lui, il vient de nous. Si dans certaines circonstances, tu as peur de venir à l'église, c'est que tu as des choses à régler. Si dans certaines circonstances, tu as peur de rentrer dans ta chambre, ouvrir la Bible et compagnie, c'est qu'il y a des choses à régler. Alors humilie-toi et fais-le. Craindre Dieu, c'est se reposer en lui. C'est se reposer en lui. T'es dans l'inquiétude, l'agitation et compagnie, repose-toi en lui. Vas-y, approche-toi de lui. Craindre Dieu, c'est aussi être victorieux sur le péché. Et forcément, si on craint Dieu, on va faire plein de choses pour lui. Mais uniquement celles qui sont du bon combat. Dernier texte, il m'est venu ce matin pendant la louange, alors on va l'afficher. 1 Jean 3,18, s'il te plaît, à 24. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. N'aimons pas avec Dieu aussi, hein, pas qu'entre nous. Hein. On continue, s'il te plaît. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs, rassurerons nos cœurs devant lui. Tout se passe au niveau du cœur. Hein. Nous rassurerons nos cœurs devant lui. On continue. Car si notre cœur nous condamne, c'est pas beau ça? Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. On continue. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. On va en rester là. Tu peux juste réafficher les deux versets sur le cœur, s'il te plaît. Juste, voilà. Si notre cœur nous condamne, ce qui peut arriver, hein, on n'est pas à l'aise à venir à l'église rencontrer des frères et sœurs. Le pasteur veut venir, qu'est-ce qu'il a à me dire? À tous les coups, le Seigneur, il lui a parlé, il a quelque chose à me dire. Hein, le pasteur, il a quelque chose à me dire, il y a un truc à régler. Là, ton cœur te condamne. Que celui à qui ça n'est jamais arrivé, il lève la main. Moi, je lève pas la main. Eh bien, mes règles. Parce que ce qui est important, c'est ce qui vient après. Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Et Dieu dit, je t'aime. Dieu dit, je t'aime. C'est bon, règle la situation. Je veux, si ton cœur te condamne, règle la situation et tu verras, ça ira. La suite. Et voilà, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alors, réglons notre problème de cœur. Réglons notre problème avec le Seigneur. Et si nous sommes effrayés parfois de la présence de Dieu, c'est parce que Dieu veut. Dieu est amour. Et il veut cette relation entre chacun d'entre nous, d'amour et pas de peur, de crainte. Amen. Mettons ça en application dans nos vies. La semaine prochaine, il devrait y avoir On va aller un peu plus loin. Les conséquences de cette crainte va nous amener à quelque chose. Là. Le Seigneur m'a montré des trucs hier, c'est bien. Enfin, moi, il me fait du bien. Après, j'espère que ça vous fera du bien aussi. Mais voilà, que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais, bah tiens, Christian, tu veux bien remercier le Seigneur, prier, s'il te plaît. Amen. Bonne journée, bonne semaine. Les réunions sont maintenues. Hein,